Bien, bonjour à tous. Alors, on est ravis de pouvoir donc nous entretenir un petit peu avec Olivier Vatine aujourd'hui, donc à l'occasion des Utopiales 2017. Bonjour.
Bonjour.
Bon, avant d'entrer peut-être un peu plus précisément dans les derniers projets en date, bon, vous avez maintenant une belle carrière derrière vous avec pas mal d'albums, hein, de séries.
Ouais, quelques-uns, ouais.
Et si vous en aviez un qui vous a peut-être un peu plus touché que les autres ou qui vous reste peut-être en mémoire et que vous conseilleriez à de nouveaux lecteurs, par exemple, est-ce qu'il y en a un qui vous viendrait à l'esprit?
Pour moi, c'est Aqua Blue Cat, parce que je pense que c'est le moment où c'est la première fois où j'ai fait un bouquin un peu que je trouvais un peu abouti, on va dire, graphiquement et en termes de narration. Isabelle Rabarot venait d'arriver sur les couleurs et tout, elle a fait un boulot dingue. Et on en reparlait l'autre jour et je lui ai dit, voilà, parce que je trouve que c'est notre spectro-bal d'or à nous, quoi. Elle me dit, mais c'est quoi le spectro-bal d'or? C'est là où Blueberry a changé. Voilà, oui, donc Aqua Blue 4.
Et donc, vous n'êtes pas simplement auteur, vous êtes aussi éditeur.
Ouais.
Et est-ce que cet aspect-là de votre travail, en fait, a été dans la continuité finalement de votre carrière d'auteur? C'est fait naturellement? Est-ce que c'est vraiment différent en termes de façon d'appréhender les œuvres? Est-ce que ça a eu une influence après sur la vôtre?
Ça s'est fait de manière assez organique, c'était pas vraiment réfléchi. Ça a commencé avec Adios Palomita. Un western dessiné par Fabrice Lamy et que j'avais co-scénarisé avec Alain Clément. Et Delcourt n'avait pas super confiance en Lamy et tout. Il me dit, bon, je veux que tu fasses, tu supervises les plannings et tout. Et quand j'ai remis le bouquin, je t'ai aperçu que j'avais fait de la coordination éditoriale, quoi, sans vraiment le savoir. Et du coup, moi, j'ai toujours aimé aussi le côté mettre les mains sous le capot, si tu veux savoir où dans la chaîne du livre je pouvais me situer, si je débordais dans les délais, qu'est-ce qui allait trinquer derrière la chaîne commerciale. Moi, mes parents étaient commerçants et en supermarché, j'y bossais pendant les vacances, quoi, pour me payer mes mobilettes et tout ça. Donc voilà, le commerce aussi, ça fait un peu partie de ma culture. Donc après, on a essayé de formaliser ça avec Delcourt, après cette expérience d'Adios Palomita, et j'ai monté série B avec Fred Blanchard, et voilà. Alors du coup, ça a un peu pénalisé ma propre production, parce que finalement je faisais de la bande dessinée par procuration. Surtout les 5 premières années où vraiment je mettais la main au storyboard sur pas mal de bouquins. Et du coup, j'avais plus cette niaque, moi, pour créer des trucs, parce que je voyais que les scénaristes pourraient écrire des bouts, etc. Donc voilà, et ça a duré 10-12 ans. Pendant ce temps-là, j'ai fait une BD. Angela. Parfois, je faisais une page par an, c'est tout, quoi.
Oui, effectivement, c'était assez chronophage pour le coup en termes de...
Oui. Puis voilà, je te dis, c'est comme je faisais de la BD par procuration, je mettais la main à la pâte. Je pense, moi, je ne sentais pas le besoin après de me remettre à ma table à dessin le soir. Ou...
Et donc là, actuellement, il y a la série Infinity 8 qui s'est mise en route.
Ouais.
Alors, ce projet-là, comment il est... Vous pouvez revenir un peu sur la jeunesse du projet, comment ça s'est mis en place?
Alors la jeunesse, je suis arrivé à Montpellier, j'ai bougé de la Normandie à Montpellier, et Lewis Trondheim était habité là depuis pas mal de temps, on se connaissait sans se connaître, on se croisait sur les salons et tout. Il m'a vraiment donné accueilli chaleureusement et tout, donné des tips un peu sur la ville, et on a commencé à se voir assez régulièrement. Puis lors d'une soirée, on parlait de... Lui avait écrit un ou deux Spirou à l'époque. Puis on parlait... C'est un fan de SF aussi. Il en a lu pas mal quand il était ado. Donc on parlait de SF. Il m'a sorti un truc à la Lewis, genre, et si on faisait un Spirou de SF? Où Spirou était groom sur un paquebot spatial et tout. J'avais commencé à faire quelques crobards, y compris le design du vaisseau, quasi l'Infinity 8 tel qu'on voit. Et après, chacun est parti sur ses trucs. Moi, j'ai fait New York. Il y avait la collection Vulle chez Ankama qui m'a pris un peu de temps. Et puis, on a reparlé de ça quand j'ai eu fini mes New York. J'ai dit, mais voilà ce que tu avais installé pour le Spirou, la nécropole, le paquebot et tout. Si on vire Spirou, il reste quand même un truc intéressant à traiter. Il a pondu ce concept. Donc le vaisseau arrive sur la nécropole, le capitaine doit mener l'enquête et fait des reboots si les conclusions ne lui plaisent pas.
Et donc ce qui est assez intéressant, c'est que finalement c'est venu avec Spirou qui est aussi une série qui a vu plusieurs auteurs aussi la reprendre à leur main, et là on est aussi dans un ouvrage collectif et avec plusieurs auteurs et il y a une espèce de filiation qui s'est faite naturellement
Alors déjà, Lewis n'avait pas envie de se taper le boulot d'écriture tout seul. Je pense qu'il avait envie de se sentir un peu... c'est un truc, un projet assez lourd. Donc, il a demandé à des co-scénaristes de participer. Alors, souvent, c'était, pour la plupart des bouquins, c'était pour Zep ou Chris, ils ont dû se voir un week-end, comment élaborer, faire le pitch de l'histoire. Et ensuite, à part pour le boulet, c'est Lewis qui écrivait les continuités dialoguées de tous les bouquins pour une unité de ton. Et finalement, il était un peu le showrunner de la série. Et après, le choix des dessinateurs, on est vite tombé d'accord qu'il fallait faire un truc un peu... comme c'était vachement serré en termes d'histoire, qu'on pouvait être un peu plus hétérogène graphiquement. Et lui venant de la BD, indé, moi le truc plus mainstream et tout, faire une espèce de comme ça de mélange. On a fait des listes chacun de son côté, on a présenté des trucs. Ah ça oui, c'est super, ça peut-être moins. Et voilà, et tout ça c'est monté assez naturellement en fait. Alors le truc rigolo, c'est que le premier à avoir démarré des pages, c'est Lorenzo Di Felici, donc un dessinateur italien, qui est super doué. Et on avait tous dit, allez, c'est du comic book, on va faire ça assez vite, en 6 mois, c'est plié. Et quand on a vu les pages de Lorenzo tomber, on s'est dit, il a mis la barre vachement haut, et on s'est vraiment appliqué, quoi. Chacun d'entre nous, voilà.
Donc finalement, il y a aussi une émulation qui s'est créée avec les différents auteurs et...
Carrément, quoi, ça... Et Lorenzo, à un moment, c'est devenu vraiment le... En tout cas, pour les premiers, pour Olivier Balès, pour Dominique Bertaille, pour moi, c'était un peu le maître étalon du truc. Faut qu'on arrive à ce niveau-là, quoi.
Et ces séries collectives, il y a un peu une tendance actuellement, peut-être un peu dans le monde de la bande dessinée en général, où on voit un peu se multiplier. Vous aviez déjà contribué à New York sur les univers de Stéphane Nouilh, pareil, où il y avait toute une brochette d'auteurs.
Ça s'est monté un peu différemment parce que moi, New York, c'est un bouquin que j'ai lu quand j'étais gamin et que j'ai relu. Je sais pas, j'ai dû le lire avec mes relectures pour travailler sur l'adaptation, peut-être une dizaine de fois. Et je m'étais dit, un jour, c'est un truc que j'aimerais bien adapter. Donc, avec Laurent Genefort, qui est ici, qui est un auteur de SF, qui a bien connu Vulle, qui allait le tanner avec un magnétophone quand il était petit, il lui posait plein de questions et tout. Et j'ai dit, écoute, faudrait que tu... à qui on doit demander ça? Donc, il m'a donné les coordonnées de l'ayant droit de Stéphane Vulle, qui était son fils adoptif, et je suis allé lui présenter mon projet de New York, et il a trouvé ça super. Pour lui, c'était un devoir de mémoire aussi par rapport à son père, donc on est devenus copains, et puis j'ai dit, mais on pourrait aussi, finalement, pour adapter la biblio, quoi. Il a dit, ouais les gars, vous êtes un peu des malades, mais pourquoi pas, allez-y, on verra bien. Et voilà, on a monté le truc, et c'est Ankama qui a pris ce projet.
Et donc, pour en revenir du coup au projet, quels sont les prochains projets à venir dans votre cas, en dehors de Infinity 8 aussi que...
Alors, les projets sont plus d'ordre éditoriaux en ce moment, c'est-à-dire que, en fait, ce qui s'est passé avec Ankama sur les vules, c'est qu'à un moment, voilà, on s'entendait plus trop bien avec le service édito. Mm-hmm. On est resté, enfin, quand je dis on, à chaque fois, c'est Comics Bureau et Olivier Stanfater qui travaillent avec moi. On est resté très copains avec Tot, le patron, on les écoute. Ça a l'air de faire chier tout le monde, de bosser sur nos trucs. Ils sont pas très réactifs, les gars, et tout. Donc, on aimerait bien les récupérer, te rembourser les avaloirs que vous avez versés aux auteurs et tout, et les faire nous-mêmes. Mais partant de là, les faire nous-mêmes, en Comics Bureau, on est un peu fauché, quoi. Si tu veux. Donc, fallait qu'on trouve des financements. Donc, c'était une année un peu chaotique et compliquée. Et parce qu'il a fallu lui aussi payer les auteurs qui continuent à bosser sur les bouquins, donc sur nos propres deniers et tout. Et finalement, là, à Saint-Malo, donc c'était la festival de Saint-Malo qui a débuté la semaine dernière, on a passé un deal de coédition avec les éditions Glénat. Donc, et on est plutôt on est satisfait du deal, eux sont aussi contents, on garde la maîtrise édito sur nos projets, on va avoir notre charte bien spécifique et tout. Mm-hmm. Et voilà, pouvoir bosser un peu plus confortablement, quoi, on va dire. Donc, avec toute une programmation, finir les vues, et plein de trucs voilà, qui sont dans les cartons, mais dont je peux pas parler tout de suite. Et en revanche, le premier des vules qui reste, il reste 3 romans, ça va faire 6 BD. C'est un one shot, c'est une adaptation de La Mort Vivante, qui est un roman un peu bizarre chez Vules, parce que c'est un truc un peu gothique, victorien, même si ça commence comme un truc de SF. Et que j'adapte à l'écriture et qu'Alberto Varanda dessine. Mais alors avec des pages, c'est de la folie, quoi. C'est genre un peu gravure 19e ou les dessins à la plume de type comme Franklin Booth ou des gens comme ça. Donc les pages avec un... C'est vraiment super impressionnant.
Le rendu visuel, oui.
Ouais, c'est un bouquin qui est vraiment très impressionnant. Mais ça devrait sortir premier semestre l'année prochaine. Il n'est pas encore complètement calé. Mais... Donc ça sera notre premier bouquin. Enfin, sûrement une édition noir et blanc aussi, parce que franchement, les pages, ça tue, quoi. Et voilà, ensuite l'orphelin de Perdite, qui va être un diptyque, et No, qui sera un triptyque adapté par Laurent Genefort. Et... Donc je l'avais gardé à Laurent, parce que je savais que c'était son roman préféré, et Alexis Santenac au dessin.
Très bien, voilà. On va faire tout ça avec grand plaisir.
Et j'espère que vos attentes seront comblées.
Je n'en doute pas. Merci en tout cas beaucoup pour ces quelques réponses, et puis au plaisir de vous retrouver sur un prochain festival, les Utopiales ou un autre.
Ça marche. Merci.